Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, je vous le disais au début de cette messe, c'est un rayon de lumière qui nous est donné de contempler aujourd'hui dans l'Écriture pour pouvoir vraiment faire notre carême, c'est-à-dire pour savoir pourquoi nous avançons. La transfiguration du Seigneur qui nous est proposée ici dans l'Évangile selon saint Marc est absolument extraordinaire et elle est là pour nourrir notre foi. J'en profite en prolégomène pour vous rappeler que le carême, il vaut mieux s'examiner de temps en temps et peut-être tous les dimanches pour savoir où on en est, parce que si les petits efforts que nous faisons ne sont pas de nature à nous sauver, c'est pas pour ça qu'on fait des efforts de carême, c'est Dieu seul qui nous sauve, c'est pour continuellement nous y faire penser et nous prédisposer à la grâce qui vient de Dieu. Voilà, donc, comme c'est le seul but, c'est de nous y faire penser sans cesse, eh bien, si vous faites une petite révision tous les dimanches, vous serez à jour. Alors, je vais voir en deux parties, d'abord les apôtres et ensuite la transfiguration elle-même. Tout d'abord, les apôtres. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sont convoqués par le Seigneur pour vivre une expérience extraordinaire, une extase, la vision même de Dieu. Alors peut-être serez-vous chagriné de vous dire que c'est très inégalitaire. D'abord, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur. Parmi ces nombreuses personnes qui suivent le Seigneur, il en a institué 72. Et parmi les 72, il en a choisi 12 pour être ses apôtres. Et parmi ces 12, il en prend 3 seulement pour avoir la vision de son corps transfiguré. Est-ce que c'est injuste? Évidemment non. Car il ne s'agit pas de la distribution, il ne s'agit pas d'un partage, il s'agit d'une grâce qui est donnée en vue d'une mission. Vous l'avez déjà compris, Pierre, Jacques et Jean, qui vont contempler le Christ transfiguré, c'est les mêmes qui, au soir du Jeudi Saint, dans le jardin, vont voir le Christ pleurant, suant du sang et de l'eau, et appelant son Père au secours. Bref, la vision qu'il aurait donnée maintenant, c'est afin de raffermir leur foi au soir du Jeudi Saint, puisque justement, ce sont les mêmes. Alors bien sûr, ce ne sont pas n'importe quels disciples, ce sont toujours ceux qu'on cite en premier. À Pierre a été confiée l'Église hiérarchique, à Jean a été confiée l'Église mystique, c'est-à-dire la Vierge Marie, et à Jacques, il a été confié Jérusalem, il sera le premier évêque de Jérusalem, et le premier des apôtres a donné sa vie pour le Christ, en mourant. Alors évidemment, chacun reçoit les grâces qui lui sont départies en fonction de sa mission. Et pour nous, c'est pareil. Tout au long de l'Église, il en fut ainsi. À chaque fois que le Seigneur donne à l'un de ses serviteurs un don particulier, une grâce spéciale, c'est pour l'appeler à un service particulier, à un service spécial. Je pourrais prendre des milliers d'exemples, j'en prends un seulement, un saint qui m'est cher, Sainte Catherine de Sienne. Eh bien, si Sainte Catherine de Sienne a eu des extases, ce n'est pas juste pour satisfaire son cœur ou par hasard, c'est parce qu'il fallait la fortifier d'une manière incomparable, elle qui n'était même pas religieuse, une femme qui n'a pas fait d'études, il fallait la fortifier toute spécialement parce que sa mission a été d'aller trouver le pape en Avignon, et de lui dire de repartir à Rome. Et elle a réussi. Elle a dû y aller 2 fois quand même, mais elle a réussi. Et je ne doute pas que ce soit en raison des grâces particulières qui lui soient données, et dans notre vie, il en est de même. Nous-mêmes, dès qu'on atteint un certain âge, on se retourne et on se rend compte que la vie n'a pas été comme nous l'imaginions, pleine d'imprévus, pleine de grâces inattendues, mais aussi d'épreuves. Et ces épreuves nous ont été données comme les grâces, car tout est grâce, pour préparer notre mission. Quand on bute, et je vous le dis pour vous consoler, quand on bute sur le mal, quand on bute sur l'échec, eh bien il faut se dire que si Dieu le permet, c'est peut-être qu'il est en train de fortifier son serviteur pour plus tard. En tout cas, c'est ce que je me suis dit plusieurs fois dans ma vie, et notamment lorsqu'il m'a été donné à 19 ans de méditer pendant 6 mois durant sur un lit d'hôpital. Ça donne le temps de réfléchir. Voilà les grâces qui sont départies, sont des grâces particulières, et évidemment ça les bouleverse. C'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Le Seigneur se manifeste dans toute sa gloire, tel qu'il est réellement, et on entend la voix du Père qui se révèle dans le Fils, et la nuée lumineuse qui est l'Esprit qui les entoure. Bref, tout comme au baptême, mais ici de manière encore plus éclatante, ce n'est pas juste une manifestation auditive ou sensorielle, extérieure, puisque les apôtres en font partie. Ils sont intégrés à cette manifestation et on comprend qu'ils soient bouleversés. Si vous connaissez l'icône qui représente cette scène, l'icône orthodoxe, c'est-à-dire à la fois droite, eh bien, on ne représente pas, comme dans certains tableaux, je suis obligé de dénoncer Raphaël, très beau tableau, mais où on regarde les apôtres regarder benoîtement le Seigneur transfiguré, il n'en est rien, hein. La véritable représentation, elle est canonique, c'est quand Saint-Pierre tombe à la renverse, quand Saint-Jacques se couvre et les yeux et tombe à genoux, et quand Saint-Jean est à plat ventre. Ils sont complètement renversés. Ce qu'ils voient dépasse l'entendement, mais ils en font partie. Et Saint-Pierre, qui prend la parole pour tous, une fois de plus, semble très à son fait, car il dit « Il est heureux que nous soyons ici ». Il a compris qu'il est en train de vivre un instant hors du temps, un instant de béatitude. Il est bien heureux, il est bien heureux qu'il soit là. Ce qu'il voit, c'est le ciel. C'est Dieu resplendissant réellement, ce qui n'a pas été donné même au plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il aurait donné de le contempler, ce qui n'a pas été donné ensuite d'ailleurs à quiconque. À ces trois apôtres, il a été donné de contempler le ciel ouvert, le Christ rayonnant de la gloire de Dieu. Même Moïse, qui a pourtant conversé avec Dieu dans le buisson ardent, n'a pas vu la splendeur de Dieu. Alors, c'était mon premier point. Voilà le point pour les apôtres, quelque sorte. N'ayez pas peur, vous aussi, d'être parfois bouleversés quand vous entrevoyez dans l'Écriture, dans la liturgie, dans le don qui vous est fait de toute votre vie, des grâces de Dieu. Si vous êtes bouleversé et même effrayé, c'est bon signe. C'est que vous avez vu quelque chose. Alors, cette transfiguration, il y a deux choses qu'il faut contempler dedans, me semble-t-il. D'abord, cette histoire des tentes, et ensuite, le Christ resplendissant. Saint-Pierre a très bien compris, c'est un juif pieux, et immédiatement, il va se mettre en route, parce qu'il voit Élie et Moïse parler avec le Seigneur, ce qui veut dire, citation du Seigneur, que le Seigneur n'est pas le Seigneur des morts, mais des vivants, puisque Élie et Moïse vivent et qu'ils parlent. Élie et Moïse, évidemment, c'est tout l'Ancien Testament. Car si on ne comprend pas pourquoi le Seigneur est préparé dans l'Ancien Testament, on ne peut pas vraiment le comprendre. Jean-Paul II disait que si on ne comprend pas profondément la préparation du Christ dans toute l'Écriture, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et la venue du peuple d'Israël, eh bien on croit que le Christ est un météorite tombé du ciel et on ne peut pas comprendre qui il est vraiment, quel genre de sauveur il est. Oui, la présence d'Élie et Moïse atteste que la préparation est arrivée à son achèvement. Élie représente les prophètes et Moïse représente la loi. À eux deux, ils sont tout l'Ancien Testament. Rien ne peut sortir de la révélation divine sinon de la loi et des prophètes. Alors, Pierre, qui a bien compris, va dire au Seigneur, « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » Les tentes, évidemment, c'est pour abriter la présence divine. C'est le signe que Pierre a bien compris que c'est Dieu lui-même qui se révélait. Les tentes, et les Juifs le fêtent encore, c'est la fête de Soukhot, la fête des tentes, c'est pour rappeler quand le Seigneur avait habité dans le peuple d'Israël, en ayant donné sa parole vivante, inscrite sur les tables de la loi, l'arche qui avait été construite pour les accueillir habitait parmi le peuple. Et Pierre ici a compris que cette même présence s'est rendue visible, alors il veut construire une tente, il veut abriter le Seigneur parmi eux, il se réjouit de voir la réalisation de toutes les promesses de l'Écriture prendre corps, en quelque sorte, dans le corps du Seigneur. La transfiguration, c'est donc la lumière ineffable de Dieu qui est montrée. La lumière, c'est ce qui sera la révélation de la fin des temps, car c'était déjà la révélation du début. Au commencement du monde, Dieu dit « et la lumière fut ». C'est-à-dire que sa création se fait par le dévoilement, l'éclairage de ce monde. Et la fin du monde sera une apocalypse, c'est-à-dire un dévoilement de toutes choses. Plus aucun mensonge, plus aucune ombre, plus aucune parole prononcée dans le noir ou à la dérobade qui ne sera connue. Plus rien ne pourra tenir devant Dieu qui ne soit pur et saint, qui ne soit brûlé par le feu dont parle saint Augustin, s'appuyant évidemment sur saint Marc, c'est-à-dire ce feu dévorant de l'amour de Dieu qui purifiera nos cœurs. Alors cette lumière de la création, certainement, si on veut faire un petit excursus rapide, mais aujourd'hui la science en est à la création par la lumière, hein. Je ne veux pas faire de concordisme trop rapide, vous savez que nous avons dépassé depuis déjà une vingtaine d'années les théories du Big Bang, et aux théories qui sont pour l'instant les plus en vogue, ce sont celles de la lumière, hein. C'est la création photovoltaïque. La lumière est à l'origine vraiment de tout, et c'est le Christ. Je m'arrête là pour la concordance, chacun doit réfléchir et prier dans son domaine. Alors, je vous ai tenu pour la fin le plus important en quelque sorte, parce que nous nous réjouissons que Dieu existe, nous nous réjouissons qu'il soit plein de lumière, de bonté, de grâce, mais ce n'est pas ça la meilleure nouvelle d'aujourd'hui. La plus extraordinaire nouvelle qui va nous permettre de tenir comme un viatique pour tout ce carême et jusqu'à la lumière de Pâques, c'est que le Christ est glorifié dans son corps, c'est-à-dire dans son corps humain. Et là, ça m'intéresse. Parce que Dieu soit Dieu, que Dieu soit grand, que Dieu soit lumineux, glorifié, c'est beau. Mais de savoir que la nature humaine que je partage avec Jésus, cet homme venu à Nazareth, qui porte en lui la nature humaine, qu'il assume, qui est la mienne, de savoir que c'est cette nature-là qui est glorifiée, vous comprenez que c'est pour nous la promesse d'une possible glorification des enfants de Dieu dans leur propre nature. Voilà l'extraordinaire viatique qui nous est donné, et finalement pas seulement pour ce carême, qui nous est donné de contempler spirituellement, intérieurement, pour notre vie éternelle. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, là où la tête est passée, le Christ est le chef, la tête, là où la tête est passée, le corps entier passera de l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont au Christ. Oui, saint Paul l'a bien compris par ses deux réflexions profondes. En nous donnant le Christ, il nous a tout donné, il nous a refait. Déjà en Abraham, il avait promis qu'il sauverait la descendance, car il ne faut pas croire qu'en Abraham, c'est le sacrifice qui compte, puisque justement, tous les peuples autour du peuple hébreu sacrifiaient, pas tous, mais beaucoup sacrifiaient des hommes à leur naissance. Et le Seigneur a voulu montrer à Abraham qu'il était venu sauver à travers les chemins tortueux de l'humanité et les chemins tordus de l'homme. Il est venu sauver son peuple en sauvant Isaac. Il n'y aura qu'un seul sacrifice, celui que nous allons célébrer maintenant à l'autel, qui va lui-même se rendre présent, c'est celui du Christ lui-même. Si Dieu est contre nous, dit encore saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, je vous laisse cette méditation pour la semaine. Si vraiment vous êtes avec le Seigneur, car il est pour vous, rien ne pourra vous arriver qu'il ne l'ait prévu, qu'il ne l'ait admis et même voulu. Et oui, si Dieu est contre nous, personne ne pourra rien contre les enfants de Dieu. La réalisation de son plan est en marche et nous serons glorifiés. Amen.